Chers amis des cellules, bonjour. En ce jour du 29 septembre où je prépare cet enseignement, c'est la fête des saints archanges. Alors je vous propose un enseignement sur les anges comme créatures libres. Nous réfléchirons à partir d'une catéchèse qui avait été donnée par le pape Saint Jean-Paul II le 23 juillet 1986. Vous en trouverez le texte intégral dans le document qui est joint à cet enseignement. Nous serons tout particulièrement attentifs à la finalité de leur existence, et dans un deuxième temps, nous regarderons le choix auquel ils ont été confrontés et qui a fait la distinction entre les anges bons, qu'on continue à appeler les anges, et les anges mauvais, que désormais nous appelons les démons. Commençons donc par nous interroger sur leur origine et sur leur finalité. Dans le paragraphe 1, le pape dit que nous professons l'existence des anges et qu'elle est voulue par un acte de l'amour éternel de Dieu, et que cela est compris dans les paroles du Credo « Je crois en un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles ». J'insiste sur ces mots « voulu par un acte de l'amour éternel de Dieu ». Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les anges sont voulus pour eux-mêmes, de la même manière que l'être humain est voulu pour lui-même. En effet, il y a dans le monde créé tout un ensemble de créatures qui ne sont pas voulues directement pour elles-mêmes, mais qui sont voulues en lien, pour aider, pour la vie de certaines créatures, et ces certaines créatures, ce sont celles qui sont créées à l'image et en vue de la ressemblance avec Dieu. Le soleil, les arbres, les animaux sont voulus en lien avec le bien de l'homme. Ils ne sont pas voulus directement pour eux-mêmes. Or, on nous dit des anges que, de la même façon que l'homme est voulu directement pour lui-même, les anges sont voulus chacun directement pour eux-mêmes. Le pape poursuivait dans le même paragraphe 1 en disant « Dans la perfection de leur nature spirituelle, les anges sont appelés dès le début, en vertu de leur intelligence, à connaître la vérité et à aimer le bien qu'ils connaissent en vérité d'une manière beaucoup plus pleine et parfaite qu'il n'est possible à l'homme. » On apprend ici que les anges sont de nature spirituelle, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de nature matérielle, ils n'ont pas de corps, ils n'ont pas de sens non plus, l'ouïe, la vue, le toucher, ça ils ne l'ont pas. Ils sont d'une nature purement spirituelle, et une nature qui est intelligente, c'est-à-dire qui est faite, qui est capable de connaître la vérité pour aimer le bien, c'est donc ça un acte de la volonté, pour aimer ce bien qu'ils connaissent en vérité, et que leur capacité de l'intelligence à saisir la vérité est beaucoup plus pleine et plus parfaite qu'il n'est possible à l'homme, parce qu'elle se fait d'une façon immédiate, alors que pour l'homme, elle se fait par la médiation des sens, avec un risque d'erreur par la médiation des sens. La créature angélique est appelée à ressembler pleinement à son Créateur qui est amour. Je cite dans la deuxième moitié du premier paragraphe, « Il a donc voulu que la créature constituée à l'image et à la ressemblance de son Créateur puisse de la manière la plus pleine possible se rendre semblable à lui, Dieu, qui est amour. » Le pape précise dans le troisième paragraphe au milieu que cette capacité naturelle des anges est assistée, aidée par une intervention surnaturelle de la grâce de Dieu qui va permettre cette élévation à la vie divine, cette élévation à la ressemblance divine. Je cite « À cette sublime capacité de connaissance des purs esprits, Dieu a offert le mystère de sa divinité, les rendant ainsi participants par la grâce de sa gloire infinie. Et précisément parce qu'ils sont des êtres de nature spirituelle, il y avait dans leur intelligence la capacité, le désir de cette élévation surnaturelle à laquelle Dieu les avait appelés pour faire d'eux, bien avant l'homme, des participants de la nature divine, des participants de la vie intime de celui qui est Père, Fils et Esprit Saint, de celui qui, dans la communion des trois personnes divines, est amour. Les anges sont donc des créatures purement spirituelles, créées à l'image et en vue de la ressemblance de Dieu, et Dieu leur accorde sa grâce, une grâce donc surnaturelle qui vient élever leur nature, pour qu'ils puissent devenir participants de la nature divine, pour qu'ils puissent devenir participants de la vie intime de Dieu, cette communion d'amour du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. La finalité des anges est donc la participation à la nature divine, la participation à la communion d'amour de Dieu. C'est important de le préciser parce que dans la Révélation, dans les Écritures, on voit toujours les anges en lien avec le salut de l'humanité, ce qui aurait pu faire croire qu'ils n'étaient là que au service du salut de l'humanité. Dont les anges ne sont pas simplement des aides, des adjuvants au salut de l'humanité, ils sont d'abord voulus pour eux-mêmes par Dieu et appelés par Dieu à rejoindre l'intimité de sa vie. Cependant, rejoindre l'intimité de la vie divine est un acte d'amour qui implique la liberté. Regardons donc maintenant comment s'exerce cette liberté angélique, quel est le choix auquel ils ont été confrontés. Dans le premier paragraphe, le pape rappelait que, en créant des êtres libres, Dieu a voulu que dans le monde se réalise cet amour véritable, lequel n'est possible que sur la base de la liberté. Donc, rejoindre l'intimité de la vie divine, c'est un acte d'amour qui implique donc l'exercice de la liberté. Que concernait ce choix? Le pape le précise dans le troisième paragraphe, tout au début. Dans le cas des purs esprits, dit-il, le choix décisif concernait avant tout Dieu lui-même. Plus loin dans le troisième paragraphe, il dit « À cette sublime capacité de connaissance des purs esprits, Dieu a offert le mystère de sa divinité, les rendant ainsi participants par la grâce de sa gloire infinie. » Dieu, je souligne, leur a offert le mystère de sa divinité. Le pape poursuit au tout début du quatrième paragraphe en disant « Le choix fait sur la base de la vérité sur Dieu » connu de manière supérieure en raison de la lucidité de leur intelligence. C'est donc sur la base de la vérité sur Dieu que le choix des anges va se faire avec une clarté toute particulière. Mais quelle est cette vérité sur Dieu? Quelle est cette vérité que Dieu révèle sur lui-même? C'est la bonté de Dieu. C'est la bonté de Dieu qui se met au service de la vie qu'il a créée. Au cœur du mystère de Dieu, il y a une bonté qui se partage, il y a une bonté qui se donne, il y a une bonté qui se met au service de moindre que lui, pour que ce moindre que lui ait part à sa propre vie. C'est ce qui est compris dans le mystère de l'élévation des créatures qui deviennent participants de la nature divine. Ce n'était pas naturel, c'est surnaturel, c'est un acte gratuit de la bonté de Dieu. C'est aussi ce que l'on voit le Christ faire, notamment au moment du lavement des pieds, où lui qui est le Seigneur et le Maître prend la position de l'esclave pour mettre sa puissance au service de la vie de ceux qu'il appelle. Et il précise encore, c'est un exemple que je vous ai donné. Je vous ai lavé les pieds pour que vous vous laviez les pieds les uns aux autres. Ce que Dieu vit, il nous appelle à le vivre à notre tour. Ainsi, comme le dit le pape au paragraphe 2, on doit dire aussi que les purs esprits ont été soumis à une épreuve de caractère moral. De caractère moral, cela signifie une épreuve qui concerne leur agir, la façon dont ils vont agir. Et quelle est-elle? Vont-ils ou non se mettre à servir comme Dieu lui-même sert? Vont-ils accepter de se faire serviteur de la vie comme Dieu se fait serviteur de la vie par pure bonté gratuite? Comme le pape le dit au paragraphe 4, les anges se sont divisés. Cela a divisé le monde des purs esprits en bons et mauvais. Les bons ont choisi Dieu comme bien suprême et définitif, connu à la lumière de l'intelligence, éclairé par la révélation. Avoir choisi Dieu signifie qu'ils se sont tournés vers lui de toute la force intérieure de la liberté, force qui est amour, et Dieu est devenu le but total et définitif de leur existence spirituelle. Je commente ceci en disant donc que les anges qui sont entrés dans la puissance et la dynamique de l'amour de Dieu sont devenus serviteurs de la vie avec lui, d'où du coup leur participation au service de la vie de l'homme, au service du coup de la révélation faite à l'homme et du projet de salut de l'humanité. C'est dans cette gratuité de Dieu qu'ils sont eux-mêmes entrés. En revanche, comme le dit le pape toujours au paragraphe 4, les autres, les anges mauvais, les démons, ont tourné le dos à Dieu, à la vérité de la connaissance qui montrait en lui le bien total et définitif. Ils ont fait un choix contre la révélation du mystère de Dieu, contre sa grâce qui les rendait participants de la Trinité et de l'amitié éternelle avec Dieu, dans la communion avec lui par l'amour. Le motif de ce refus est explicité par le pape au paragraphe 5. Il dit ceci au milieu du paragraphe 5, « Tout cela, c'est-à-dire ce refus, semble exprimé de manière concise par les mots « Je ne servirai pas », qui manifeste le refus radical et irréversible de prendre part à l'édification du règne de Dieu dans le monde créé. Je commente, « Tandis que l'édification du règne de Dieu dans le monde créé passe par une mise au service de sa puissance est mise au service de la vie de ceux qu'il appelle, eh bien, l'ange qui devient démon refuse, en fait, ce service de la vie. Il ne servira pas, il ne se mettra pas au service, il ne conçoit pas qu'il puisse mettre sa puissance au service de plus bas que lui. Il ne veut pas se conformer à l'agir de Dieu, qui lui-même se fait serviteur de la vie. Le pape continue, « Satan, l'esprit rebelle, veut son propre règne, non pas celui de Dieu, et il s'érige ainsi en premier adversaire du Créateur, en opposant à la Providence, en antagoniste de la sagesse aimante de Dieu. » Le pape rappelle dans le paragraphe 4 que sur la base de leur liberté créée, les anges mauvais ont fait un choix radical et irréversible, tout comme celui des bons anges. Alors, un choix radical et irréversible, comment cela ? Parce qu'il n'y a pas d'erreur, de possibilité d'erreur dans le raisonnement de l'ange. Il ne s'est pas trompé, il ne fait pas une faute de calcul, il n'a pas mal lu une ligne. Et donc, quand il a fait un choix, il a fait un choix qu'il ne remet jamais en cause. C'est une chose qui est un peu difficile à comprendre pour nous, parce que nous pouvons faire des erreurs d'appréciation, et puis nous avons besoin de temps pour nous faire une opinion, pour nous faire un jugement. Nous voyons bien que notre opinion sur telle chose évolue avec le temps. Ce n'est pas le cas de l'ange. Il arrive immédiatement au point final de sa détermination. Et donc, quand il a choisi, il a choisi définitivement, il n'y a pas de regret, il n'y a pas de repentir. Son choix était éclairé, et c'est un choix qui demeure perpétuellement. Au terme de cet enseignement, je voudrais mettre en évidence l'extraordinaire humilité de Dieu que révèle le choix des anges. Notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, se fait serviteur de la vie. Et il appelle celles de ses créatures, qui sont créées à son image en vue de sa ressemblance, à participer à la même vie d'amour et d'humilité. Prenons en conséquence le temps de méditer ce dialogue entre Pierre et Jésus au moment du lavement des pieds. « Comment, toi, Seigneur, me laver les pieds ? Jamais !» Et Jésus lui répond, « Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. » Pierre aurait voulu que le Christ n'eût pas besoin de s'abaisser pour que lui-même soit élevé. Et Jésus manifeste qu'il n'y a pas d'élévation de Pierre possible si lui-même Jésus ne s'abaisse, si lui-même Jésus ne met sa vie au service de la vie de Pierre. Et c'est cette humilité qui donne la vie, c'est cette humilité qui permet l'amour. puissions-nous y entrer avec la grâce de Dieu, en ayant conscience que ce choix a divisé les anges. Je vous souhaite de bons échanges.